Le journal de Catherine Dutu, bien sûr. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est un casse-tête politique et il y a également urgence écologique. La démission de Nicolas Hulot vient contrecarrer les plans du chef de l'État, remaniement forcé, précipité. Vous l'entendrez dans un instant.
Nicolas Hulot qui laisse de nombreux dossiers en jachère, transport plus propre, nucléaire, vous l'entendrez.
Et puis, avant les élections européennes de mai prochain, les partisans d'une ligne dure contre les migrants se font entendre. Rapprochement entre l'Italie et la Hongrie, nouvelle manifestation également hier en Allemagne.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, Chemnitz, assiste-t-on au réveil de l'extrême droite en Allemagne ? Nous serons en compagnie de l'historien Nicolas Offenstadt.
Édouard Philippe, droit dans ses bottes, interrogé dans les colonnes du Dauphiné libéré sur la démission. Surprise hier de Nicolas Hulot, le Premier ministre affirme ce matin que rien dans cette décision ne le conduit à ralentir ou à modifier la politique sur laquelle le gouvernement s'est engagé sous l'autorité du président de la République. Mais après un été difficile sur fond d'affaires Benalla, la rentrée de l'exécutif se complique davantage après avoir été marquée déjà par une croissance en berne et des arbitrages budgétaires décriés chez les retraités notamment. Selon le politologue Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'Institut de sondage Pollingvox, la démission de Nicolas Hulot est synonyme de perte d'autorité pour Emmanuel Macron.
Le charisme présidentiel est altéré. C'est d'autant plus ennuyeux pour Emmanuel Macron que son pouvoir repose moins sur un parti politique que bien sur un charisme personnel qui lui permet de faire travailler ensemble des gens venus d'horizons différents. La crédibilité personnelle de Emmanuel Macron est aujourd'hui sans doute atteinte.
Est-ce qu'il était essentiellement une caution, Nicolas Hulot, pour Emmanuel Macron ?
Je crois que la fonction essentielle de Nicolas Hulot était de prouver que le « en même temps » fonctionnait également dans la sphère écologique, que l'on pouvait en même temps avoir donc une politique pro-business et cependant se préoccuper de manière efficace de l'environnement et traiter les sujets écologiques.
Est-ce que son départ doit conduire à un remaniement de plus grande ampleur, selon vous ?
Il serait, je pense, sage pour le gouvernement de penser à un remaniement d'une assez grande ampleur parce que les difficultés se sont accumulées durant l'été. Il y a encore un certain nombre de réformes à mener. Le macronisme est avant tout une dynamique. C'est une force qui va. Aujourd'hui, elle est très ralentie. Elle sort de l'été totalement affaiblie. Eh bien, il faut sans doute un geste fort. Ça pourrait être un remaniement gouvernemental.
Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'Institut de sondage Pollingvox, interrogé par Stéphane Robert, qui donc, pour remplacer Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique, casse-tête politique et analyse à suivre dans le journal de 7h30. En attendant de connaître le nom du remplaçant ou de la remplaçante de Nicolas Hulot dans l'équipe gouvernementale, plusieurs dossiers restent en suspens. Des transports plus propres, par exemple. Avant la présentation d'une loi sur les mobilités, Nicolas Hulot espérait obtenir les crédits nécessaires pour un plan vélo d'envergure. La France, pays pourtant moteur en 2015 de l'accord sur le climat, ne respecte pas ses objectifs climatiques. Les émissions de dioxyde de carbone sont reparties à la hausse depuis 2016. Trop de petits pas, a reconnu hier Nicolas Hulot pour justifier sa démission du gouvernement. Le gouvernement qui doit, par exemple, encore élaborer une nouvelle feuille de route énergétique. La programmation pluriannuelle de l'énergie doit préciser pour les 10 années à venir la place du nucléaire et des énergies renouvelables. Mais avec la fermeture de la centrale de Fessenheim, sans cesse retardée sous l'effet du report de la mise en service de l'EPR de Flamanville, Nicolas Hulot avait dû endosser la responsabilité de reporter l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Équation quasi impossible, comme nous l'explique Patrice Jo. Front, professeur d'économie spécialisé dans les questions d'énergie à l'Université Paris-Dauphine.
Nous avons à l'heure actuelle une 60aine de réacteurs nucléaires. Cela aurait supposé de fermer à peu près un tiers de ces réacteurs nucléaires et donc de remplacer entre maintenant et 2025 cette capacité de production par d'autres moyens. À un horizon si court, c'est très difficile de le faire uniquement avec du renouvelable parce que la capacité française d'hydroélectricité est déjà très largement développée, donc ça aurait supposé de développer très rapidement du photovoltaïque, de l'éolien, et donc sur un horizon particulièrement resserré. Et en fait, la crainte globalement, et notamment la crainte de Nicolas Hulot, c'est que dans le même temps, il n'aurait pas été possible de fermer les centrales à charbon, ce qui était sa priorité, et que donc, schématiquement, il aurait fallu procéder à un arbitrage, faire moins de nucléaire, mais ce faisant, continuer à faire du charbon. alors que l'engagement a été pris parallèlement de fermer toutes les centrales à charbon françaises en 2022.
Patrice Geoffron, professeur d'économie, spécialiste des questions d'énergie à l'université Paris-Dauphine, il répondait à Hakim Kassim. Et quel rôle peuvent jouer les entreprises dans la transition écologique? Question posée hier à l'ouverture de l'université d'été du MEDEF sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas, en région parisienne. Mais les engagements du patronat restent encore à vérifier, Jean-Marc Chardon.
On peut le dire, le départ de Nicolas Hulot aura sans doute contribué à projeter de la lumière sur une série de conférences qu'avait organisé le MEDEF pour le lancement de sa manifestation de rentrée. Rien qu'à la lecture des intitulés, il est clair que l'organisation patronale s'est bien saisie de la cause écologique, au moins en parole. Apocalypse Now, ou comment sortir de la misère et la dégradation de l'environnement, suivi d'une autre table ronde, sale temps pour la planète. De COP en COP, toujours pas de progrès suffisant, à qui la faute? Un peu plus loin, comment désenclaver les banlieues et améliorer l'environnement? On s'interroge sur la ville durable. Dans une quatrième conférence, on cherche cette fois à optimiser l'espace. Faudrait-il transformer l'univers en zone industrielle pour préserver la Terre? L'instant d'après, débute une autre conférence débat autour cette fois de l'épuisement des ressources, des réserves pour 30 ou 60 ans et après. À croire que la cause écologique est clairement entendue dans les sphères patronales, d'où émerge la conviction que c'est déjà aux entreprises de répondre aux défis écologiques parce qu'elles peuvent apporter des solutions pour l'essentiel par l'innovation. Mais un débat qui ne peut être homogène pour autant, si un quart des entreprises, notamment parmi les grandes, sont conscientes que leur activité pollue d'une manière ou d'une autre, un autre quart ne s'en soucie pas et ce n'est finalement qu'une minorité qui s'emploie à réduire les effets de gaz à effet de serre.
L'université d'été du MEDEF qui s'achève ce soir après la visite de 9 ministres, dont le premier d'entre eux, hier Édouard Philippe, a défendu la constance de sa politique budgétaire lors de cette université d'été, niant tout zigzag malgré le report de la baisse des cotisations patronales décidée par l'exécutif. Édouard Philippe qui commence par ailleurs à discuter avec les partenaires sociaux aujourd'hui des chantiers potentiellement explosifs de l'automne, réforme de l'assurance chômage, santé au travail. Philippe Martinez pour la CGT et Philippe Louis pour la CFTC ouvriront le bal de ces rencontres à Matignon cet après-midi.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. En Allemagne, l'extrême droite a donné de nouveau de la voix hier.
Avec une manifestation à Dresde cette fois, en signe de solidarité, ont expliqué les organisateurs, avec la victime de Chemnitz, cette autre ville de Saxe où un homme de 35 ans a été poignardé à la suite d'une altercation avec des réfugiés, selon les premiers éléments de l'enquête. Plusieurs rassemblements ont dégénéré à Chemnitz depuis dimanche, plusieurs blessés avant-hier, mais les manifestations d'hier à Dresde se sont déroulées dans le calme, dans cette région qui a voté à 27% pour le parti d'extrême droite AfD en septembre dernier. L'Allemagne est-elle en proie à un regain, à un retour de l'extrême droite? C'est la question que vous évoquerez, Guillaume Erner, juste après ce journal.
Absolument, Catherine, avec l'historien Nicolas Offenstadt.
Rome et Budapest unis dans une approche dure sur la question migratoire. Hier, Matteo Salvini, chef de la Ligue, parti d'extrême droite et vice-président du Conseil italien, a reçu le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pour parler donc de la crise migratoire. Un même mot d'ordre, fermer les frontières. Matteo Salvini a interpellé au passage Emmanuel Macron pour qu'il rouvre, lui, la frontière à Vintimille, Mathilde Imberti.
Peu importe que la Hongrie ne soit pas solidaire de l'Italie sur l'immigration, peu importe qu'elle ait refusé d'accueillir un seul des migrants bloqués à bord du navire di Ciotti, Matteo Salvini et Viktor Orban voulaient afficher leur convergence hier, avec un objectif, stopper l'immigration vers l'Europe, et un adversaire, le président français, la bête noire de Matteo Salvini.
J'estime que la Hongrie a le droit absolu de défendre ses frontières et la sécurité de son peuple. Et notre objectif commun est de protéger les frontières extérieures. Nous demandons avant tout aux grands pays voisins de l'Italie de collaborer, et donc à la France. Le président Macron, qui est au minimum historique de popularité, passe son temps à faire la leçon aux pays étrangers. Lui, le premier, devrait faire preuve de sensibilité et de solidarité en rouvrant la frontière à Vintimille.
Salvini est mon héros, s'enflamme le Premier ministre hongrois, tandis que dans le centre de Milan, environ 3000 personnes manifestent contre cette alliance souverainiste naissante à 9 mois des élections européennes.
Au Brésil, le président Michel Temer a ordonné hier d'envoyer l'armée dans l'état septentrional de Roraima pour contenir l'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés du Venezuela. Crise économique à Caracas, crise migratoire, les autorités péruviennes, elles, ont décrété hier l'état d'urgence sanitaire à la frontière nord du pays face à la poursuite de l'afflux de Vénézuéliens. Quant au président vénézuélien, Nicolas Maduro, il a lui signé 7 accords avec des sociétés pétrolières internationales dans le but d'augmenter la production de pétrole à 1 million de barils par jour, dans le but bien évidemment de renflouer les caisses de l'État. Des manœuvres militaires de grande envergure annoncées pour dans 2 semaines en Sibérie orientale entre les armées russes et chinoises. 300 000 soldats et 1 millier d'avions de combat seront en mouvement pendant 5 jours, comme au temps de la guerre froide, avec le Kremlin qui semble jouer la transparence comme pour mieux impressionner les Occidentaux. Contrairement à l'an dernier, où pour limiter la présence d'observateurs, Moscou avait minimiser l'ampleur de ces exercices militaires. Moscou cherche aujourd'hui à rappeler à l'OTAN et aux États-Unis en particulier la puissance des liens qui peuvent unir la Russie et la Chine. En Palestine, c'est sans doute la rentrée la plus perturbée pour les écoles des camps de réfugiés gérées par une agence de l'ONU qui leur est dédiée spécialement. Cette agence qui s'appelle l'UNRWA, elle est dans le collimateur de Donald Trump qui a gelé presque tous les financements des États-Unis pour cette agence cette année. Agence qui gère 300 000 élèves à Gaza et en Cisjordanie. Pour eux, la rentrée se fait sous le signe des déficits et dans l'inquiétude, Étienne Monin.
Dans le camp de réfugiés de Haïda à Bethléem, la cour de l'école des garçons est en chaudron à l'heure de la récréation. Ici, c'est l'un des derniers services que l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, apporte encore, regrette Abdel Fattah Bousrour, responsable d'une des plus importantes associations culturelles du quartier.
La clinique mobile qui a arrêté ses services, le programme de santé mentale et puis le job creation, le programme temporaire de création d'emplois. Ça, c'est des programmes qui ont été arrêtés.
L'UNRWA gère 360 écoles à Gaza et en Cisjordanie. 250 personnes ont été licenciées cette année, mais les écoles vont ouvrir malgré un trou financier encore important, dit Meg Odette, numéro 2 de l'agence en Cisjordanie.
L'ouverture de ces écoles, c'est la réaffirmation de notre engagement à apporter l'éducation aux réfugiés palestiniens. Mais nous avons un déficit de 217 millions de dollars. Pour l'instant, nous n'avons pas les fonds pour faire fonctionner les écoles au-delà de fin septembre.
Et l'offensive de Donald Trump contre l'agence ne semble pas terminée. Après les coupes financières, le président américain est soupçonné de vouloir s'attaquer au statut même de réfugié, dont l'UNRWA est la garante.
Quelques mots du temps de ce mercredi 28 août, marqué par des pluies, de la grêle et des orages localement forts sur l'est du pays, dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Des orages qui ont privé hier soir 16 000 foyers d'électricité en Gironde et en Dordogne. Alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses dans tout le reste de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 12 et 16 degrés dans la moitié nord du pays, 16 à 22 au sud. Cet après-midi, comptez de 23 à 27 degrés dans le sud-ouest, 18 à 22 des Pays de la Loire jusqu'à la frontière belge, 23 à 33 degrés dans le reste du pays.